Vous écoutez le Libre Journal de la plus grande France, dirigé par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 30 janvier 2021 de 18h à 21h, et réalisé par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bien, chers amis auditeurs, nous voici dans cette seconde partie du Libre Journal de la plus grande France, en compagnie, ils sont encore là de la première partie, notre fil rouge, hein, qui est présent dans le studio, puisque nous ne pouvons être que trois dans le studio, le docteur Olivier Soulier. Nous allons avoir, qui va arriver dans le studio, donc dans ce cas-là, Lara va devoir sortir un moment, François Asselineau, qui est pris, je viens de recevoir un message, dans quelques bouchons, mais il arrive. Nous avons Louis Fouché, le docteur Louis Fouché, de Réinfo, porte-parole et fondateur de Réinfo Covid. Nous avons aussi Oscar Freisinger, qui est présent, cette fois-ci plutôt, non pas sur l'aspect politique, mais plutôt sur l'auteur de Cendre Rouge, aux éditions Apopsis, livre dont nous avions parlé il y a un peu plus d'un an sur Radio Courtoisie. Alors je me tourne tout de suite, en attendant François Asselineau, sur, parce qu'on parle beaucoup finalement depuis le début de cette émission de mythes, de philosophie, de philosophie de l'histoire, de philosophie de la technique, mais j'aimerais savoir, à vous entendre les uns les autres, on a presque l'impression que la politique c'est fichu, qu'en fait on ne s'en sortira pas par la politique, on s'en sortira peut-être par le retour à des normes ontologiques, par le divin ou par la résistance, mais et l'aspect, est-ce qu'il y a encore la place dans ce combat titanesque d'aujourd'hui pour de la politique? Et là je me tourne vers Oscar Freisinger, en tant qu'ancien vice-président de l'UDC, vous avez marqué les esprits à plusieurs reprises par des référendums d'initiatives populaires qui ont permis d'arrêter un certain nombre, ou par des initiatives d'ailleurs en sens inverse, qui ont permis de générer des lois. J'aurais aimé donc que vous nous parliez un moment de la démocratie directe et je crois d'un référendum qui est prévu pour le mois de juin et qui conteste en Suisse, au niveau national, la loi d'urgence sanitaire. Oscar Freisinger.
Oui, alors, les Suisses ont un système qui est unique au monde, très particulier, parce que oui, il y a vraiment là une démocratie directe vivante et efficace qui permet au peuple de garder la haute main, si on veut, sur les décisions politiques, parce que toute loi qui est décidée par le Parlement peut être soumise au référendum facultatif, c'est-à-dire on rassemble 50 000 signatures et on peut s'y opposer. Si c'est un changement de la Constitution, c'est même le référendum obligatoire qui, à ce moment-là, opère. Et puis, on a ensuite aussi un pouvoir de proposition, c'est ce qu'on appelle l'initiative populaire, où en rassemblant 5 000 signatures, on peut obliger le gouvernement et le Parlement de légiférer, et obligé d'aller dans un certain sens. Et donc c'est contraignant, c'est pas juste une proposition, une pétition, des choses comme ça. Non, c'est à un certain moment, si le peuple a décidé de l'expulsion des étrangers criminels, ben on les expulse. Si on a décidé qu'il n'y aurait pas de minarets qui sont construits sur le territoire national, on ne bâtit pas de minarets. C'est donc sa force de loi. Donc on a la base de la pyramide qui a des instruments institutionnels pour infléchir les décisions de la tête de la pyramide. C'est un système qui a été construit du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. Le système est, disons, caractérisé par une forte humilité. Les Suisses, les premiers Suisses, quand ils ont prêté serment la première fois là, sur le Rütli, donc les trois Suisses de la Suisse primitive et originale, ils ont décidé de ne plus de se prêter assistance et de ne plus accepter le dictat donc des baillis, des Habsbourg, etc., donc des pouvoirs princiers qui les entouraient, etc. Nous n'avons pas eu chez nous, on a eu de la bourgeoisie, on a eu une certaine aristocratie bourgeoise, mais on n'a pas eu l'aristocratie féodale, il n'y a jamais eu ça. Donc, ces paysans, parce que c'était des paysans, hein, c'était une société agricole, vivant dans un milieu extrêmement hostile, donc les Alpes, c'est quand même pas facile, hein, surtout, imaginez ça au XIIe, XIIIe siècle, c'est pas vraiment évident de survivre et de gratter cette terre pour obtenir quelques fruits permettant de survivre. Donc ils se sont fortement inspirés de la nature pour imaginer leur système de vivre ensemble. Et la nature, elle équilibre toujours les forces. Il peut y avoir des changements abrupts, mais ils sont ensuite compensés, etc. Et le temps règle toujours tous les problèmes. Donc ils se sont fortement inspirés de leur vie dans cette nature hostile et des lois qu'ils étaient obligés de respecter s'ils ne voulaient pas y mourir. Donc il y a quand même certaines lois, ne serait-ce que les températures ou certaines lois de la gravité qui font que si vous ne les respectez pas, vous allez vous casser la gueule. Ça, c'est évident. Donc tout ça est entré dans la création de cette démocratie directe qui a évolué énormément, hein, pendant les siècles et qui, après passé 700 ans, est toujours vive et toujours active. Pourquoi ? Parce que les êtres humains passent, avec toutes leurs faiblesses, leur tendance à être narcissiques, psychopathes et tout ce qu'on veut. Par contre, le système lui perdure. Et ce qui est fort dans le système suisse, c'est justement le système. C'est cette démocratie directe, c'est ces institutions, cette double séparation des pouvoirs, verticale et horizontale, le fédéralisme. Ça, c'est très fort, mais ça reste. Donc les hommes politiques suisses, bah, ils passent. Et généralement, les têtes qui dépassent, on les coupe. Le gouvernement suisse, au fond, on a 7 ministres qui doivent cohabiter, donc issus des partis les plus importants du pays, donc pour essayer d'avoir une représentation équitable. Ils doivent s'arranger entre eux, mais ça fait qu'on est obligé toujours de choisir des gens plutôt des souris grises, des gens pas trop animaux alpha, quoi. Parce que si vous mettez la 7 animaux alpha, ils vont se bouffer entre eux. Donc on va toujours choisir des seconds couteaux, si on veut. Mais c'est pas si important, on s'en fout parce que c'est le système qui est fort. C'est le système qui est efficace et qui a toujours le peuple comme arbitre au définitif si le politique en haut il ne respecte pas sa volonté.
Oui, mais alors...
Il y a des débats. Oui.
Mais j'aimerais qu'on arrive... Il faut qu'on avance, Oscar, et moi j'aimerais qu'on arrive à la situation actuelle avec un gouvernement qui a l'autorisation de gouverner par des ordonnances, un parlement qui s'est dessaisi et référendum en juin sur la loi d'urgence sanitaire. Oscar.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'urgence de cette situation sanitaire a fait qu'à un certain moment, l'exécutif, donc le gouvernement, a commencé à diriger par décret. Et que le Parlement s'est mis lui-même hors jeu pendant un certain temps. Parce qu'il fallait plus se réunir, plus que temps, etc. Alors le Parlement lui-même, finalement, ne se réunissait plus. Et quand le Parlement est revenu dans le jeu, il a entériné les décisions, ou certaines décisions qui avaient été prises par l'exécutif, après coup, si on veut, rétroactivement, à travers des lois des adaptations de lois qui légitimaient ce qui avait été fait auparavant. Bien. Mais là, il y a le peuple qui tout à coup est intervenu en disant « Non, mais attendez, ça ne va pas, ça. » Parce que nous ne sommes pas du tout d'accord, nous, le peuple, avec ça, et nous avons un instrument, c'est-à-dire le référendum. 50 000 signatures devaient être rassemblées, on en a eu passé 100 000, pour dire « Non, mais ces mesures-là, vous n'allez pas les pérenniser. Ça, ça va pour la situation d'urgence telle qu'elle a été à un certain moment, mais dès qu'on y voit plus clair et dès que les choses vont changer, il faut que ça se soit abrogé, donc on ne veut pas du tout que ça devienne la règle. Et ça, vous ne l'avez pas en France et vous ne l'avez nulle part ailleurs. Parce que là, le gouvernement prend les décisions et il vous faudra un changement de majorité, vraisemblablement, hein, un changement de majorité parlementaire, voire un changement gouvernemental, pour pouvoir ensuite rétro-pédaler et faire quelque chose d'autre. Mais chez nous, à l'intérieur même d'une législature, il y a toujours ces instruments-là qui permettent au peuple d'apporter leur correctif.
Merci beaucoup, Oscar Freisinger. J'ai maintenant en face de moi François Asselineau. Juste avant sa présentation et lui donner la parole, et entendre lui poser cette question, je crois, Louis Fouché, docteur Fouché, vous êtes toujours parmi nous. Normalement, il est... Docteur Fouché, vous êtes parmi nous ?
Oui, je vous entends bien.
Très bien, vous avez entendu l'intervention d'Oscar Freisinger.
Oui, quand on s'appelle Fouché, on est toujours présent.
François Asselineau est donc en face de moi. Vous avez vu finalement l'aspect politique. Vous avez eu un échange que l'on peut visionner sur Internet avec François Asselineau. J'imagine que la politique pour vous, vous êtes un médecin, vous travaillez dans un service de réanimation. Ce sont des choses tout à fait nouvelles. Quel est le premier contact, finalement, à moins que vous en ayez eu dans le passé, mais je ne pense pas, avec les hommes politiques, avec la vie politique de votre pays ?
Non, j'ai pas de passé politique. Et oui. Mon regard est celui de quelqu'un d'un peu désabusé, on va dire, sur la politique politicienne. J'ai l'impression de voir un théâtre d'ombre dans lequel on maintient un tapin à gauche, un tapin à droite, et à la fin pour élire le grand Satan au milieu. Donc finalement, j'ai un regard assez sombre finalement, et très peu de commisération ou d'empathie pour le monde politicien. Même si je suis bien persuadé qu'au sein de ce monde-là, il y a des gens qui cherchent le bien commun et des gens qui cherchent à faire de leur mieux pour mettre en place un système qui nous permet de vivre ensemble. Cela dit, je pense qu'il y a une corruption systémique qui n'est pas que l'apanage du monde politique, hein, une corruption systémique de tous les systèmes qui nous entourent, le système sanitaire, le système financier, le système politique aussi, le système de la publication et de la création du savoir. Je crois qu'on est arrivé à un paroxysme, en fait, de cette corruption systémique, et qu'on est à un moment où, finalement, alors qu'on voudrait renoncer aux politiques, c'est le moment de s'en emparer. C'est le moment de s'en emparer, peut-être par des mouvements de désobéissance civile, et j'entends par là l'utilisation de la voie non violente, en fait, et la proposition alternative, je pense à des restaurateurs qui voudraient ouvrir. Je crois qu'il ne faut pas qu'ils ouvrent tout seuls. Mon arrière-grand-père disait, si tu veux faire des bêtises, et il disait ça de manière un petit peu plus imagée, si tu veux faire des bêtises, fais-les bien. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit restructurer la règle commune, en fait, sans laisser la chance à l'exécutif de le faire, parce que l'exécutif le fait finalement pour ceux dont il est le commanditaire. Il est le commanditaire de puissance d'argent qui règne sur des systèmes pervertis. L'Union européenne en est un. L'Union européenne est un guichet unique pour les multinationales pour vous imposer des choses que vous ne voulez pas. Moi, je viens de l'écologie, en fait. Hein, j'ai fait partie des Colibris, un mouvement citoyen des Colibris. Et je me suis rendu compte progressivement que finalement toutes les pétitions que je signais, que ce soit pour le Roundup, les néonicotinoïdes, etc., finissait par aboutir in fine toujours au même endroit, à Bruxelles. Et que c'était un nœud d'étranglement extrêmement important, qu'effectivement, même si vous ne voulez pas de Roundup, et ben vous en aurez quand même. Même si vous ne voulez pas le CETA, et ben vous en aurez quand même. Même si vous ne voulez pas d'OGM dans les farines animales, et ben vous en aurez quand même. Donc finalement, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de politique au sens strict du terme, il y a une intendance de la région France, technocratique, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Oscar Freisinger l'a dit, c'est-à-dire qu'on est déjà dans cette dystopie totalitaire techno-industrielle. C'était déjà le cas dans le monde industriel, c'était déjà le cas dans le monde de la médecine, c'est le cas aussi maintenant dans la gestion des affaires publiques. Les gens ne font que gérer des affaires publiques. Donc je crois qu'il y a des gens qui sont fondamentalement mauvais là-dedans, pervers et paranoïaques, j'en ai parlé, mais je crois qu'il y a aussi des gens qui sont juste dans l'extraordinaire banalité du mal, de Hannah Arendt, et qui font un système qui n'a plus de relation avec le réel.
Bien.
Plus de relation avec... Voilà, je laisse la parole.
Alors, je la reprends pour la redonner au plus vite et pour établir un échange aussi avec un homme politique qui est arrivé dans ce studio, qui s'appelle François Asselineau, que nous avons déjà eu la chance d'avoir une fois sur ce plateau et dans le Libre Journal de la plus grande France. Bonjour, monsieur Asselineau.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, François Asselineau, vous êtes fondateur président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, inspecteur des finances, ancien cadre du Rassemblement pour la France de Charles Pasqua. Vous êtes présenté à la dernière élection présidentielle de 2017. Vous êtes gaulliste et souverainiste, et en tant que tel, vous refusez l'alternative de la droite et de la gauche. Vous souhaitez que la France puisse quitter l'Union européenne, c'est le Frexit. Vous menez aujourd'hui aussi, avec d'autres, un combat extrêmement courageux pour réinformer les Français sur cette crise épidémique mondiale du coronavirus. La première question que j'aurais envie de vous poser, puisque vous avez déjà échangé avec le docteur Louis Fouché, c'est finalement, Louis Fouché, c'est un jeune médecin extrêmement brillant, mais à l'entendre, il est terriblement désabusé de la politique, François Asselineau.
Écoutez, oui, il a des raisons de l'être. Je le connais bien. Je l'ai reçu. C'est un esprit brillant. Sans être offensant à son égard, je dirais que j'ai vu aussi d'autres médecins. D'ailleurs, il est à la tête d'une espèce de collectif de médecins. Il y a d'ailleurs des milliers de médecins en ce moment en France qui agissent pour d'abord rétablir la liberté de prescription du monde médical, ce qui est quand même la moindre des choses. Et je comprends qu'il a... Il a dû percevoir en accéléré, si j'ose dire, ce que j'ai découvert moi-même sur, disons, une vingtaine d'années. Vous savez, moi, quand j'ai fait HEC, j'ai fait ensuite l'ENA. Quand j'ai fait l'ENA, mon rêve était de sortir au Quai d'Orsay pour devenir diplomate et vivre à l'étranger. Notamment, mon rêve absolu était un jour d'être ambassadeur au Japon. Bon. Et puis, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Je suis sorti à l'Inspection Générale des Finances. Et puis, petit à petit, c'est un peu comme une boule envoyée dans un billard électrique, si vous voulez. Je me suis retrouvé assez vite à Bercy, et puis auprès d'un directeur, et puis ensuite en cabinet ministériel, et puis j'ai accompagné François Mitterrand, c'était dans la cohabitation, j'étais au cabinet de Monsieur Gérard Longuet, dans le cabinet Balladur. J'ai accompagné, dans le cadre de la cohabitation, François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. Ensuite, j'ai été au ministère des Affaires étrangères auprès de Monsieur de Charette, et là j'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Thaïlande, en Malaisie, au Brésil, en Argentine, dans de nombreux pays. Et tout au long des années 90, j'ai été victime un peu d'une lente désillusion. Voilà. C'est-à-dire que je croyais qu'il y avait du pouvoir encore en France. Et puis plus je montais, plus j'observais ce que je voyais, et plus je découvrais qu'en fait, il y avait une espèce de politique du chien crevé au fil de l'eau. Et que nous, on était toujours obligés de respecter. Alors c'était le sous-directeur respectait le directeur respectait le cabinet obéissait aux instructions venant de Matignon. Matignon, ça va depuis obéissait aux instructions venues de l'Élysée. Et puis l'Élysée avait baissé les bras. Je me rappelle d'un entretien que j'ai eu à l'Élysée avec un conseiller très proche de Jacques Chirac. C'était en 1996. Le président Chirac devait se rendre à Bruxelles pour un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Et donc je représentais le ministère des Affaires étrangères. À l'époque, j'étais au cabinet de M. de Charette. Il y avait également le conseiller du ministre de l'Intérieur, le conseiller du ministre de l'Économie et des Finances, le conseiller du ministre de la Défense nationale, le conseil du ministre de l'Agriculture. Et je voyais qu'à chaque fois, chaque dossier qui passait, fallait céder dans le cadre du compromis de ci, de ça. Monsieur Chirac avait promis ça au chancelier allemand de l'époque, qui était Gerhard Schröder, etc. Et puis est arrivé un moment où il y a eu un dossier qui me tenait à cœur. J'entre pas trop dans les détails. Et j'ai fait ce qu'on ne devait sans doute pas faire, c'est-à-dire que j'ai un peu rué dans les brancards. J'ai dit « Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que... » Il y a des milliers d'emplois en France qui sont derrière. Même si on est tout seul, on ne peut pas laisser passer ça. Et j'ai dit, il faut que l'Élysée mette tout son poids dans la balance. Et je me rappelle que le conseiller de Jacques Chirac m'a répondu « Oh, tu sais, François, le poids de l'Élysée. » On était en 1996 avec Jacques Chirac. Vous vous rendez compte?
Donc, depuis 24 ans, ouais.
Et depuis lors? Depuis lors, on a eu Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, puis Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il faut bien que les Français comprennent que nous sommes dirigés par des gens qui ont complètement intégré l'idée que la France ne pèse plus rien. C'est exactement ce que Charles de Gaulle appelait l'esprit d'abandon. C'est-à-dire que voilà, on est lancé dans une... On a l'impression que le gouvernement... Enfin c'est flagrant avec Emmanuel Macron. On a l'impression qu'il ne dirige pas la France pour les Français. Il dirige la France pour complaire à des contraintes venues de Big Pharma, venues de tel ou tel laboratoire pharmaceutique. Dans cette espèce de crise de la Covid, je suis absolument sidéré de voir que des médicaments qui sont archi connus, comme l'hydroxychloroquine par exemple. Moi, j'en ai pris comme tout le monde allant en Afrique. Bon, c'est un antipaludéen. J'en ai pris. Tout le monde sait que c'est un médicament qui est avec une totale innocuité, sauf évidemment si on en prend des kilos entiers. Mais c'est pareil pour l'aspirine, qui est le plus vieux médicament du monde. Si vous prenez des kilos d'aspirine par jour, ben vous mourrez d'un ulcère d'estomac. Mais en respectant moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé sur l'hydroxychloroquine. Je ne sais pas si ça marchait, si ça marchait pas. Mais il y a une hystérie d'un seul coup sur cette histoire. Et au même moment, on nous disait que c'était formidable d'acheter du remdesivir qui était à 2000 euros la dose. Mmh. Et on en a acheté pour 1 milliard d'euros au niveau de l'Union européenne. Et puis on apprend quelques semaines, quelques mois après, que le remdesivir d'abord ne sert strictement à rien, pire et nocif, extrêmement dangereux, notamment peut bousiller les reins. Et maintenant, peut-être pire encore, c'est peut-être lui qui est à l'origine de la multiplication des variants. Et donc ce qui, moi, me fascine, mais m'horrifie en même temps, c'est de voir que le débat démocratique normal est hystérisé. C'est-à-dire que si vous n'approuvez pas le fait que parce que regardons les choses en face, ce qui a été autorisé comme traitement par l'Union européenne, c'est 1) le remdesivir, 2000 euros la dose, que maintenant on est en train de jeter, et 2) ce sont maintenant les anticorps monoclonaux que l'Allemagne vient d'acheter à 2000 euros la dose. Ce sont des médicaments sur lesquels on n'a aucun recul. On ne nous fait pas, là, sur ce coup-là, on ne nous fait pas le coup des études randomisées, nanana, avec l'ivermectine, avec la vitamine D, la vitamine C, le zinc, l'hydroxychloroquine, la ZT, maintenant c'est la colchicine. Je ne dis pas que ce sont des médicaments miracles, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que lorsque l'on voit arriver des études venant du monde entier qui disent que ça marche dans certains cas, d'après leurs études, sur 1000, 2000, 5000, 10000 patients, que bien sûr, il n'y a pas 100% de réussite, mais que ça fait diminuer drastiquement. Par exemple, il paraît que l'ivermectine, ça fait diminuer drastiquement le nombre de personnes qui sont contaminées, la gravité aussi de l'infection. Quand vous simplement vous dites « qu'est-ce qu'il en est ?» On pourrait peut-être étudier ça. On vous tombe dessus. On vous traite de complotiste et vous n'avez même plus le droit à la parole. Donc, à mon avis, l'année 2020 restera, je pense, dans les annales, comme l'année d'un mot. C'est le mot complotiste. Alors, d'une certaine façon, j'en suis assez satisfait parce que lorsque j'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2017, pour dire ce que je disais déjà depuis lorsque j'ai créé mon parti politique en 2007, c'est-à-dire que suite à l'expérience que j'avais eue, notamment au cabinet ministériel que je viens de rappeler, notamment avec au cabinet Charette, quand j'ai vu de très près que tous les pouvoirs, en fait, étaient partis à Bruxelles, j'ai créé donc en 2007, vous le savez, un mouvement politique pour appeler les Français à sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Bon. Pas besoin de vous dire que pendant plusieurs années, on m'a considéré comme un dingue. Et puis l'affaire du Brexit au Royaume-Uni a changé la donne. Et si j'ai pu être candidat à la présidentielle en 2017, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de maires qui se sont dit « ma foi, c'est vrai, objectivement, ça vient de se passer au Royaume-Uni. C'est vrai que c'est normal que quelqu'un, même si je ne suis pas d'accord avec lui, que quelqu'un puisse présenter ses réflexions ». Mais je n'ai quasiment pas pu les présenter, d'ailleurs, parce que j'ai découvert... Et là aussi, ça explique le fait... Je comprends parfaitement Louis Fouché qu'il soit désabusé par rapport à la politique, parce que j'ai découvert qu'on n'a jamais parlé de moi avant que j'aie eu les 500 parrainages. Et à partir du moment où j'ai eu les 500 parrainages, on m'a affublé le qualificatif de complotiste. Et je me rappelle, j'arrivais dans une séance de... Je sais pas, sur un plateau de télévision, d'une grande télévision nationale ou d'une grande radio nationale. Et aussitôt, la première chose que me disait le journaliste, alors qu'on m'avait jamais vu avant... Hein, Monsieur Asselineau, on dit de vous que vous êtes complotiste. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en politique, si vous voulez, à partir du moment
où... Vous êtes précurseur.
Voilà. À partir du moment où on met ce truc
d'infamie.
C'est l'infamie. Et malheureusement, je suis tombé parce que j'étais... Vous savez, je suis quelqu'un... Je suis honnête, je suis quelqu'un de je suis pas compliqué, je suis empreint de toutes les valeurs que m'ont enseigné mes parents et mes grands-parents. Moi, je croyais qu'en politique, on pouvait débattre librement, sans, mais pas du tout. Ce que j'ai vu pendant la campagne présidentielle de 2017, c'est que à chaque fois que j'allais sur une chaîne de radio ou de télévision nationale, j'entends, hein, je parle pas de certaines radios du web, etc., qui là me recevaient correctement, me posaient des questions. Non, à chaque fois que j'allais sur une radio ou une télévision nationale, j'étais un accusé face à 3-4 procureurs. Voilà. Et donc pendant cette campagne, je n'ai quasiment pas pu développer ni mes analyses, ni mon programme. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de là en pensant que j'étais une espèce d'illuminé, qui n'avait qu'une obsession, c'était de sortir de l'Union européenne. On ne savait même pas pourquoi. Voilà. Alors que j'avais tout un programme extrêmement détaillé, y compris d'ailleurs le point... Il y avait des points, notamment, je crois, point 92, où je demandais de limiter drastiquement le poids des lobbies pharmaceutiques en Union européenne. Si je n'ai aucune once, bien au contraire.
On ne se fait pas des amis. Hein,
bien entendu.
Dans les médias en disant
bien
ça.
Bien entendu. Et donc ce que j'ai découvert en fait, c'est que voilà, bah, vous le savez parfaitement ici dans une radio comme la vôtre, j'ai découvert que le débat en France était par toute une série d'artifices de programmation neurolinguistique, le progrès des sciences cognitives au XXe siècle. On sait maintenant comment tordre un débat, comment imposer une vision négative sur tel ou tel candidat. D'ailleurs, ça commence d'emblée. Hein. D'emblée, vous avez, quand vous allez voir en 2022, d'emblée, vous avez les grands candidats et les petits. Et quelqu'un, quelque part, décide que vous êtes un petit candidat. Voilà. En 2022, on avait décidé que M. Macron était un grand candidat. Pourquoi ? Enfin, quand je dis « on », c'est pas vous, c'est pas moi. Ce sont les gens qui tiennent les médias. Pourquoi Macron était-il un grand candidat alors qu'il ne s'était jamais présenté à la moindre élection ? Moi, nous avions déjà présenté des candidats aux élections. On avait fait des scores modestes, 0,5, 0,6, mais on s'était déjà présenté aux élections. Lui n'avait aucune élection derrière lui. Et il a été catapulté comme un grand candidat. Et il a eu, vous le savez, 185 couvertures de magazines. Et pendant des mois et des mois et des mois et des mois, on n'a parlé que de lui. Alors effectivement, ceux qui s'intéressent à la politique, eh bien progressivement, sont désabusés. Hein. C'est comme disait Oscar Wilde en parlant de la vie. Il disait « Au fond, ça n'est qu'une lente désillusion ». Et moi, ce que Louis Fouché a découvert en un an, quoi, eh bien moi, je l'ai découvert en 15 ans. Et j'en suis rendu... Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Eh bien soit on baisse les bras, on se dit « c'est fichu », soit on se dit « non, il faut se... » C'était Churchill qui disait que je crois que la victoire, c'est aller de défaite en défaite sans jamais se décourager. Eh bien il faut poursuivre. Et l'évolution des événements fait que je pense qu'il est de toute façon inévitable, ce que j'ai proposé depuis 15 ans, que ça arrivera. L'explosion de l'euro est inscrite. Peut-être pas demain, peut-être pas dans 6 mois. Mais de toute façon, ça arrivera parce que pour toute une série de contraintes que je n'ai pas le temps de développer ici. L'affaire du Brexit est extrêmement pédagogique parce que on nous a expliqué pendant des années, ça a duré 5 ans, un, que c'était pas possible, deux, que si ça avait lieu, ce serait l'apocalypse absolue, etc., etc. Et tout a été fait au Royaume-Uni pour dissuader les électeurs de voter pour le Brexit. Ensuite, après le vote, pour torpiller le gouvernement de Mme Theresa May, qui était trop faible. Et pour... Il y a eu les manœuvres les plus extraordinaires ont eu lieu. Après ça, il y a eu le changement avec Boris Johnson. Tout a été fait. Il y a eu des élections générales. Les Britanniques, qui sont un très grand peuple, et sans doute le peuple qui défend le mieux les libertés publiques depuis la Magna Carta de 1200 et quelques, eh bien les Britanniques, 1215 je crois, les Britanniques ont revoté en faveur du Brexit. À ce moment-là, on a eu Boris Johnson, avec ses qualités et ses défauts, mais qui a mené à bien le premier Brexit du point de vue juridique, c'était le 31 janvier de l'année dernière. Et puis ensuite, il a fallu trouver un accord. On nous a expliqué qu'il n'y aurait jamais d'accord, que ce serait la catastrophe. Et puis il y a un accord. Et puis maintenant, on nous avait expliqué que ce serait terrible, qu'il n'y aurait plus de papier hygiénique au Royaume-Uni. Vous avez rappelé ce qu'on avait dit, qu'il y aurait des files d'attente avec des kilomètres et des kilomètres de camions, que ci et que ça. Moi, ce que je vois, c'est que les nouvelles venues de Grande-Bretagne, alors sauf sur le Covid, hein, qui ne sont pas bonnes, mais qui sont plus mauvaises encore qu'en France, si c'est possible.
Oui.
Mais je vois que du point de vue du Brexit, bah, écoutez, ça se passe. Ça se passe. Et je lisais hier ou avant-hier, il y avait un article qui montrait que Nissan, l'entreprise japonaise d'automobile, avait confirmé l'agrandissement de son usine automobile et que les Britanniques sont très pensent qu'effectivement tout ça va bien se passer, que l'industrie automobile va repartir beaucoup de l'avant. Enfin, les éléments montrent que les choses se passent très correctement. Alors, il est trop tôt pour faire un bilan du Brexit. Ça se fera dans 3, 4 ou 5 ans. Enfin, déjà, on a vu que sur toute cette série d'événements, tout ce qu'on avait mis dans la tête des Français était faux. Voilà.
Très bien. François Asselineau, merci pour cette... en tout cas, vous plantez là bien le décor du débat. Je vais passer la parole à notre fil rouge de cette émission de 3 heures, qui est le docteur Soulier, qui voulait intervenir. Et puis après, on fera intervenir aussi notre dernier invité, Charles-Maxence Layet, qui est un collaborateur de Michel Rivasi au Parlement européen, qui est fondateur aussi de la revue Orps, et qui nous parlera, et on pourrait échanger évidemment avec François Asselineau, à la fois sur les questions de ces fameux contrats d'achat anticipés. Et puis il reviendra, et ça il est au cœur du dispositif européen. Je pense qu'il y a des sujets vraiment intéressants sur lesquels vous allez pouvoir échanger. Et il reviendra aussi sur le passeport vaccinal. Olivier Soulier, c'est à vous.
Oui, alors, un petit mot d'abord sur la politique. Moi, je pense que face à cette mondialisation et ces lobbies qui font la politique dans le monde, il va falloir que les honnêtes gens reprennent, se réoccupent de la chose publique. Et ça va être absolument fondamental que tous les gens, tous les honnêtes citoyens, les simples citoyens, se réoccupent et se réinvestissent. Je pense qu'on ne sortira pas de cette crise sans se réinvestir dans la chose publique qui est la politique. Ça, c'est une première chose. Maintenant, la deuxième chose, puisqu'on a parlé d'humour tout à l'heure, je voudrais prendre des choses avec un peu d'humour. Je voudrais faire une petite fable avec un peu d'humour. On imagine quelqu'un qui va au bureau des vaccins, au bureau plutôt des virus, il dit « Ah, je voudrais un virus parce que je voudrais faire un grand reset mondial. » Ok, d'accord, on va vous en fabriquer un. Et puis c'est bien. Et puis le problème, c'est qu'il y a un problème dans la livraison, parce qu'il était censé être absolument mortel pour tout le monde. Et puis le problème, c'est qu'il y a malheureusement une espèce de barbu, chevelu, Astérixus, voilà, Raoultus, qui dit « Oui, mais il y a un truc qui ne marche pas. » Alors les mecs, ils râlent, ils disent « Écoutez, c'est pas possible, on croyait que ce virus était bien. » Et voilà, donc il y a un... Dans tout ce système bien rodé, il y a un petit grain de sable qui est quelqu'un qui dit, voilà, cette espèce de zigoto qui va nous raconter, c'est normal, il y a une barbe, donc il est bizarre, donc c'est pas bon. Et bien, en fait, il y a une réalité, c'est que c'est ça. Alors évidemment, ça quitte le business model où on ne peut avoir que des nouveaux médicaments et pas des anciens médicaments, mais il y a une réalité scientifique qui est là. En fait, on a des trucs qui marchent bien. La chloroquine, ça marchait, allez, mettons, à 60%. Moi, je l'ai utilisé, c'est assez spectaculaire. Et il y a un nouveau médicament maintenant qui a quand même été étudié avec... Récemment, quand on a fait le point, il y avait 28 études randomisées, donc on est vraiment dans des choses extraordinairement bien faites. Et qui, alors que la chloroquine, on pouvait dire, allez... 40-60% au début, surtout, ça marchait très bien. Plus c'était tôt, mieux ça marchait. C'est clair, le premier, deuxième, c'était bien. Troisième, moins bien. Quatrième, moins bien. Mais au tout début, c'était vraiment très bien. Et l'ivermectine, on est dans des principes en préventif, on est dans du 100% quasiment. Et on est dans du 80% en phase rapide. Et chose tout à fait étonnante, l'ivermectine, dans les phases plus avancées, d'après les statistiques, les chiffres scientifiques, on est encore à 40%. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, la solution là. On sait que ça guérit 99,95% des gens, et sur les 0,05% qui restent, on a des traitements qui fonctionnent. Comme dirait Coluche, hein, c'est con ce qui leur arrive.
C'est ça la note d'humour. Vous êtes d'accord, François Asselineau, on va dire c'est bête, hein, on est sur Radio Courtoisie, c'est bête ce qui leur arrive finalement.
Oui, alors je ne veux pas, moi je ne méconnais pas le nombre de personnes qui décèdent, quoique ce nombre soit lui-même sujet à caution. Hein, les rumeurs circulent sur une surévaluation du nombre de décès de la Covid-19, puisqu'effectivement on a l'impression qu'il y a d'autres maladies qui ont disparu. Moi, j'ai des exemples précis autour de moi, personnes qui sont décédées et qui ne sont pas des personnes très âgées, Je pense à mon père qui sont décédés de, au mois d'avril dernier. Ouais. J'ai le sentiment qu'il a dû être comptabilisé comme décédé Covid, mais en fait, ce n'était pas le cas. C'était quelqu'un qui était arrivé en fin de vie. Donc, moi, ce que je trouve absolument inadmissible dans ce qui nous arrive, c'est que les Français sont des gens de bonne composition. On peut concevoir que face à un virus nouveau, on ne sait pas quelle en est l'origine, mais on peut concevoir face à un virus nouveau qu'un gouvernement, quel qu'il soit, puisse un peu patauger, ne pas toujours avoir les bonnes décisions. Faut être humain, c'est normal. Mais il y a des choses qui ne vont pas. C'est-à-dire que moi, enfin, quiconque serait à la place du chef de l'État se dirait que face à une maladie que l'on ne sait pas guérir dans un premier temps, on peut essayer tout, surtout des médicaments qui n'ont aucune toxicité connue, surtout quand quelqu'un vous en parle. Et donc ce refus répété, assuré de ne pas jamais parler des traitements et de simplement nous focaliser un jour sur le remdesivir, qui est un scandale absolu, sur lequel il n'y avait aucun retour. Et puis ensuite, nous focaliser uniquement sur le vaccin, et encore pas n'importe quel vaccin, mais seulement sur des vaccins sur lesquels on n'a aucun recul, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de malhonnête, ça n'est pas possible. Quelqu'un d'honnête, dont ça se sent, quelqu'un d'honnête devrait se dire « Bon, ben, je vais quand même essayer le truc de Raoult, je vais quand même essayer ». D'ailleurs, moi, j'aimerais savoir au passage, personne ne nous l'a dit, mais Madame Macron et son mari ont été infectés. On nous a dit qu'ils avaient été soignés. Ils ont été soignés comment ?
Oui, on aimerait savoir. Oui.
On aimerait savoir. Alors, est-ce qu'ils sont restés dans leur lit avec du Doliprane ou est-ce qu'ils ont eu autre chose ? Bon. Moi, j'aimerais savoir ce genre de choses. Et ça fait penser qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et puis il faut surtout ne pas baisser les bras. Moi, je pense qu'il y a cette affaire de remdesivir ne doit pas passer comme ça. Il n'est pas normal que l'Union européenne ait dépensé 1 milliard d'euros, c'est-à-dire la quote-part des Français, c'est 180 millions d'euros là-dedans. Il n'est pas normal que ceci ait été acheté pour qu'en fait ça aille à la poubelle. Ça veut dire qu'il y a forcément eu à Bruxelles, forcément, des gens qui s'en sont mis plein les poches. Donc je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, je suis favorable à m'associer à la plainte qui a été lancée par le professeur Raoult, qui est représenté par Maître Divisio, pour lancer une plainte collective contre le remdesivir et l'Agence nationale de santé et du médicament. Je pense que les Français doivent se mobiliser. On peut écrire au procureur de la République, au tribunal de Paris, pour lui dire que, ben voilà, que nous, on s'associe à cette plainte. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Voilà. De la même façon que j'aimerais savoir ce qui s'est passé sur l'achat du vaccin Pfizer, que, semble-t-il, la Belgique a acheté 3 euros de moins chaque vaccin que l'Union européenne, ce qui s'est marché sur la tête. Plus vous achetez de doses, normalement, et moins vous les payez. Il y a forcément des enveloppes qui circulent. Ça n'est pas possible.
Alors, justement, François Asselineau, nous allons accueillir, et vous allez pouvoir discuter ensemble, notre dernier intervenant ce soir, avant la chronique, tous des amateurs, fiers d'être des amateurs plutôt, de la Rastam. Il s'agit de Charles-Maxence Layet, qui est habitué, alors je vous présente vraiment très très vite, fondateur de la revue Orb, c'est le collaborateur aussi au Parlement européen, et donc il est au cœur de ce système d'une députée un peu atypique, j'ai envie de dire, en tout cas pour une Europe écologie les Verts, Michèle Rivasi, qui est tenace et qui justement... Bonjour Charles Maxence.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Voilà, Michèle Rivasi, comme vous-même, vous êtes extrêmement tenace, donc quand vous posez des questions, vous aimez qu'on vous réponde et que vos interlocuteurs vous répondent, et c'est normalement cela la démocratie et le Parlement européen. Vous êtes très fortement penché justement sur ces contrats d'achat anticipés pour les vaccins, dont on a vu là ces derniers jours, alors c'est un florilège.
Oui, effectivement, pour rebondir sur des propos qu'on a pu entendre juste avant, c'est vrai que comme peut le dire le docteur Louis Fouché ou là à l'instant monsieur Asselineau, à un moment donné l'intérêt général c'est non négociable, vous voyez, et les questions de respect de l'argent public, les questions de la transparence, eh bien oui, ce sont des facteurs de démocratie, et si on a des décisions et des prises de position qui manifestement s'entêtent à aller dans un certain sens qui est celui de l'opacité, c'est qu'il y a des trucs à dissimuler, vous voyez, et c'est pas forcément de la raison d'État compte tenu de ce qui se, ou en tout cas ce sont des considérations sonnantes et trébuchantes compte tenu des proximités qui ont été largement documentées depuis plusieurs années voire quelques décennies si on remonte plus haut au niveau des grands lobbies industriels qu'il peut y avoir entre certaines décisions publiques et des intérêts industriels qui, c'est pas la problématique de l'intérêt industriel en lui-même qui pose question, mais des intérêts industriels qui sont au service d'intérêts privés, qui ne sont pas au service de la collectivité et de l'intérêt général et des populations. On est bien sur ces enjeux-là. Alors, c'est vrai que là, cette semaine, on a vécu un véritable vaudeville vaccinal sur Bruxelles. J'ai l'impression à chaque fois de rentrer dans des chroniques de ce qui se passe sur l'Europe, ici, à chaque fois que j'interviens à vos côtés, Nicolas. Vaudeville vaccinal autour de l'accès aux contrats et de la transparence des contrats avec AstraZeneca, puisque, rappelons-le, donc, en fait, avec AstraZeneca, donc hier, la Commission européenne, après une semaine de bras de fer et de ping-pong assez atterrant, par rapport à aux propos qu'il pouvait y avoir dans les noms d'oiseaux qu'on puisse échanger à AstraZeneca, la direction d'AstraZeneca et puis la Commission européenne. La Commission européenne hier a donc mis en ligne le second contrat d'achat anticipé, le contrat concernant les vaccins de ces AstraZeneca. Et on a eu, tout a commencé il y a une dizaine de jours à peu près, quand on a eu cette séquence avec des fabricants de vaccins auprès desquels Bruxelles avait contracté et avait acheté donc des vaccins de façon anticipée, c'est-à-dire sans savoir si oui ou non les vaccins allaient être efficaces, sans savoir si oui ou non les vaccins allaient être autorisés par l'Agence européenne des médicaments. On a donc depuis le mois d'août à peu près 6 contrats qui ont déjà été signés avec 6 compagnies pharmaceutiques, et on a encore 2 autres contrats ou 2 autres discussions, négociations qui sont en cours avec 2 autres labo. Et le premier labo à avoir signé, ça a été Sanofi de mémoire. Et puis on a AstraZeneca qui a été signé très rapidement en août dernier. Et puis là, donc, on est à l'heure maintenant, il faut livrer les vaccins. Donc Moderna et Pfizer ont été autorisés entre fin décembre et début janvier pour l'Union européenne. Et donc on est dans des logiques de livraison par rapport à ces vaccins. Je ne rentre pas pour l'instant dans les polémiques ou les questions qui peuvent se poser quant à l'efficacité véritable de ces vaccins ou pas, puisqu'on a des questions dans des sphères très légitimes, très scientifiques qui se posent aujourd'hui, qui sont formulées explicitement quant à leur efficacité. Mmh. Je rentre simplement sur les questions de processus et puis de procédures commerciales dans une séquence comme ça qui est celle de signature de contrat,
dans des marchés publics, de
produits,
dans des marchés publics, voilà,
exactement, de transparence, mmh. de transparence de marché public. Mmh. Et depuis donc septembre.
Donc, on dit marché public, dit argent public.
Voilà, exactement. Il y a donc ce principe de transparence des marchés publics et de transparence de la dépense de l'argent public. Donc, depuis septembre, on a des députés européens, dont évidemment, parmi les toutes premières, Michèle Rivasi, qui sont montés au créneau pour demander, il n'y a pas qu'elle, mais elle a fait partie des premiers, qui demandent la transparence, qui demandent l'accès au contrat. Et la transparence de l'accès au contrat pour connaître les questions de responsabilité juridique des entreprises. Qui est responsable en cas d'effet indésirable grave des vaccins? Est-ce que ce sont les entreprises ou est-ce que ce sont les États qui ont racheté les doses de vaccins? Qui va payer s'il y a des dommagements à payer, comment vont se dérouler les livraisons, quel est le prix des doses, etc., etc. On a eu des chiffres qui ont fuité en octobre-novembre dernier via une bévue d'une ministre du budget belge. Et très bien, merci à elle. On a eu un petit peu d'informations comme ça qui est sortie en off. Désolé pour l'anglicisme, Nicolas. Mmh. Et puis,
c'est vrai qu'il n'y a pas de mots pour s'il n'y a pas d'autres mots que off.
Pardon, Nicolas.
Vous n'avez rien trouvé de mieux que off.
Voilà. Depuis septembre, on a ce bras de fer pour avoir accès au contrat. Il y a 15 jours, on a eu le contrat CureVac. Le premier contrat a été mis en ligne. Accessible, même s'il était barré un peu de partout, donc il y avait plein d'infos auxquelles on pouvait pas avoir accès. Mmh. Et là, depuis hier, on a un second contrat qui est accessible, c'est celui de AstraZeneca. On attend encore les contrats de Pfizer et de Moderna, qui sont les vaccins qui sont injectés dès à présent. Mais en tout cas, AstraZeneca, hier, le contrat a été mis en ligne, et hier après-midi, il a été autorisé. Mais sauf qu'il y a deux semaines, AstraZeneca, en même temps que quand Pfizer a annoncé qu'ils allaient réduire, qu'ils avaient des petits problèmes de production et qu'ils allaient livrer moins que prévu, en même temps que Moderna a dit des postes proches, eh bien, en fait, AstraZeneca, quelques jours plus tard, a dit aussi la même chose. Et là, ils l'ont dit presque deux mois avant les premières livraisons prévues qui devaient se passer avec le mois de mars, en gros. Et le problème, surtout, c'est que AstraZeneca, quand ils ont annoncé une réduction des livraisons, c'était pas une petite diminution des livraisons. Pour Pfizer, c'était à peu près 20 ou 25% de livraisons en moins qui étaient annoncées, en gros, sur les volumes qui étaient prévus sur le mois de février. Du côté d'AstraZeneca, c'est moins 60% sur les volumes qui étaient engagés par les contrats. Donc, de deux choses l'une, soit AstraZeneca a enfumé tout le monde dans les négociations en survendant ses capacités de production et sa capacité à répondre au volume demandé, soit c'est les négociateurs de Bruxelles qui sont des perdreaux de l'année et qui ne sont pas capables de pouvoir de défendre les intérêts de l'argent public. Toujours est-il que par rapport à l'espèce d'indignation qui a commencé à monter, parce que publiquement parlant, ça n'était plus défendable, par rapport à l'indignation qui est montée de la part des opinions publiques ou en tout cas de politiques autant nationaux qu'européens, on a la Commission européenne qui, depuis une semaine, a donc d'abord froncé les sourcils et à partir de lundi a commencé à durcir le ton. Et mardi, on a eu une première conférence de presse de la commissaire de la Santé ou de représentants de celle-ci. Et il était question d'une réunion le mercredi avec AstraZeneca. C'était la troisième réunion de crise. Mais AstraZeneca, par voie de la presse, a fait savoir qu'ils n'allaient pas venir à la réunion, qu'ils allaient snober la réunion. Donc, ce qui fait qu'il y a eu une seconde conférence de presse et réunion et communication de crise de la part de la Commission le jeudi, c'est-à-dire avant-hier, pour dire on met en place un système de contrôle et de transparence dans les exportations des doses et on veut plus de transparence de la part d'AstraZeneca. Donc, ce qui fait qu'on est un peu, comme dirait la députée Michèle Rivasi, c'est de elle que vient un peu cette expression dans ce contexte-là. On est dans une situation un peu d'arroseur arrosé, où la Commission, qui pendant six mois a traîné des pieds pour rendre les contrats transparents, ou en tout cas mettre en ligne des contrats qui étaient partiellement cachés, avec des barrés et illisibles sur certaines parties, se retrouvait 15 jours plus tard à devenir l'avocat de la transparence pour sauver la face par rapport à la façon dont l'a traité AstraZeneca. On est vraiment dans des situations où cette impuissance organisée qu'a pu être dit juste avant, nourrie, entretenue, qui s'est construite. Moi, de mon côté, je situe ça, et c'est ce que m'ont dit, des fonctionnaires des institutions européennes qui sont dans les murs, dans les locaux depuis les années 80, ils m'ont dit, en gros, c'est à la fin des années 90 qu'on se retrouve à avoir comme ça un noyautage des institutions européennes par les entreprises privées. C'est le moment où la commission Santer tombe pour corruption, on est dans les années 99-2000, et c'est à ce moment-là qu'il y a effectivement des processus, des dispositifs, des façons de consulter, des réunions officieuses dans les cabinets ou dans les couloirs ou hors même des institutions européennes, où on va avoir comme ça une prise en compte privilégiée des demandes des grandes entreprises par les réglementations et les normes ou les directives que les législations que Bruxelles peut mettre en place. Et donc, d'où ce combat sur la transparence qu'il peut y avoir et qui est notamment porté par le Parlement européen.
Oui. Charles-Maxence Layet, merci, on va revenir vers vous. Mais je me retourne à nouveau vers François Asselineau. Pourtant, il y a quelques mois, vous l'avez entendu comme moi, notre inimitable Premier ministre disait « Bravo l'Europe, heureusement qu'elle est là, l'Europe ». Pour les vaccins. Alors là, quand on voit le résultat aujourd'hui, on est affligé.
Ben oui, si vous voulez, c'est les faits, comme disait Nietzsche, il n'y a rien de plus, c'est les faits et leur formidable éloquence. On ne parle d'ailleurs jamais de ce qui se passe en Russie, en Chine, en Inde, dans un certain nombre de pays en voie de développement. Moi, j'ai l'œil rivé en permanence sur ce qui s'y passe. Je trouve tout à fait extravagant, par exemple, qu'on n'ait toujours pas la possibilité d'avoir accès aux vaccins russes ou chinois. Je pense qu'il y a aussi il doit être clair pour tout le monde que les Français qui ne veulent pas être vaccinés ont le droit de ne pas l'être et ont le droit de ne pas subir des pressions de toute nature. Ça a d'ailleurs été le Conseil de l'Europe l'a affirmé récemment. Le Conseil de l'Europe, c'est pas la même chose que l'Union européenne. Dans le Conseil de l'Europe, vous avez la Russie, vous avez la Suisse, vous avez la Norvège, vous avez l'Islande, en plus des pays européens. Moi, ce que je pense, c'est que... Enfin ce que je vois, pour résumer, la construction européenne file le même destin que la construction du socialisme. C'est-à-dire que ça n'est pas fondé sur les mêmes présupposés. Voilà, dans un cas, il fallait tout nationaliser. Il fallait combattre les intérêts individuels. Hein, le stakhanovisme, c'était ça. Mais le problème dont on s'est aperçu avec les décennies, c'est que si vous empêchez l'intérêt individuel d'agir, ben les gens ne font plus rien. Enfin je schématise. Et donc vous avez des pays qui, les uns après les autres, tombent dans la bureaucratie, l'inefficacité. Les statistiques sont lamentables. Il faut truquer les statistiques parce qu'on prétend avoir la loi de l'avenir. Et petit à petit, on s'enfonce dans des sociétés dictatoriales, totalitaires, tatitata. Bon. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a un moment à partir duquel, dans l'Union soviétique, on avait le droit de critiquer hein, plein de choses. Au Soviet suprême, les gens se critiquaient. Il manquait des lits à l'hôpital de Nijni Novgorod. Il y avait eu du coulage dans telle ou telle sauve-cause en Ouzbékistan, République socialiste soviétique d'Ouzbékistan. Ça gueulait ferme, etc. Donc on peut pas dire qu'il n'y avait pas de critique. Hein. Mais il y avait une chose qu'on n'avait pas le droit de critiquer. C'était les fondements du régime, c'est-à-dire le principe de la construction du socialisme qui était irréversible, etc., etc. Or, quand vous avez une structure étatique que vous n'avez pas le droit de critiquer et qui manipule des millions et des centaines de millions de roubles, par exemple, des milliards de roubles, qu'est-ce que ça fait ? Petit à petit, ça draine dans cette structure toutes les mafias possibles. Et l'Union soviétique s'est achevée. Dans les mafias, vous savez, il y a la mafia du coton en Ouzbékistan, il y avait le gendre même de Leonid Brezhnev qui était un. Voilà, c'était le cynisme complet et l'argent. Et bien, c'est la même chose avec la construction européenne. La construction européenne, elle n'est pas fondée sur le présupposé qu'il faut lutter contre les intérêts individuels, elle est fondée sur un autre présupposé, c'est qu'il faut lutter contre les intérêts nationaux. C'est pas bien. Donc, il faut condamner les intérêts nationaux. Bon. Mais de la même façon que sous l'URSS, si on condamnait les intérêts individuels, ça ne les empêchait pas d'exister quand même. Et s'ils n'étaient pas récompensés, les gens baissaient les bras. C'est pareil avec la construction européenne. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous dites qu'il faut combattre ce que Bruxelles appelle les égoïsmes nationaux qu'ils cessent d'exister. Et si vous combattez les égoïsmes nationaux, c'est-à-dire l'intérêt national, on arrive dans un pays comme la France qui souffre d'abord et avant tout d'une crise morale très profonde, puisqu'on voit bien, on sent bien, les Français sentent bien que M. Macron ne défend pas les intérêts nationaux. Et on voit aussi qu'il y a des pays au sein de l'Union européenne qui défendent mieux leurs intérêts nationaux que d'autres. L'Allemagne, par exemple, la Pologne, la Hongrie, le Royaume-Uni, ils sont partis. Nous, on est un peu les dindons de la farce. On est un peu les jobards. C'est-à-dire que, on le voit d'ailleurs, les décisions. Regardez ce qu'ils viennent de décider. M. Castex, ça vient de décider de fermer enfin les frontières, parce que ça, c'était le truc efficace à faire, mais pas les frontières de l'Union européenne.
Ça, c'est de l'idéologie,
Oui, c'est de la pure idéologie. Regardez l'Allemagne, ce qu'elle vient de faire. Elle a dit qu'elle ferme les frontières, mais elle ferme aussi la frontière avec le Portugal et avec l'Irlande, qui sont très infectés. Nous, vous vous rendez compte de la dingoterie du truc. Monsieur Castex interdit à des Taïwanais ou à des Japonais de venir en France, alors qu'ils ont un taux d'infection quasiment nul. Mais en revanche, la frontière est ouverte avec la Belgique, qui est le pays où il y a le plus d'infections au monde. Et ben, on en est là. Alors... De la même façon, l'Union européenne est devenue une gigantesque machine à brasser des milliards et des milliards d'euros. Et vous n'avez pas le droit de la critiquer. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ben c'est inévitable. C'est dans la nature humaine. Vous voyez affluer des aigres fins, des entreprises de la mafia, en fait, et qui, sous couvert de construction européenne, n'a plus jamais la guerre, etc. Enfin, c'est Tartuffe incarné. Vous avez des gens qui s'en mettent plein les fouilles. Et si vous demandez des comptes, on vous traite de complotiste. C'est assez pratique. Alors, bon, tout ça, malheureusement, la France est en train de s'abîmer dans cette affaire. Oui. On est en train de perdre notre prestige international. On sait de notre industrie. On est en train de torpiller des intérêts nationaux les uns après les autres. Mais la première chose à faire, effectivement, et ça, je rejoins le docteur Soulier de tout à l'heure, c'est qu'il faut que les Français se redressent, se ressaisissent. Et j'allais dire, moi, j'aurais presque un petit médicament à moi. C'est mon hydroxychloroquine à moi, intellectuel. C'est que je veux vraiment appeler les Français à faire comme sous l'occupation. Sous l'occupation, si vous voulez, il fallait colporter les informations. Et De Gaulle, en 40, il passait pas sur Radio Paris. Hein. Moi, je suis complètement blacklisté des grands médias. Je suis pas le seul, d'ailleurs. Mais en 40, il y avait la BBC londonienne. C'est un peu l'équivalent d'Internet d'aujourd'hui. Il faut absolument que le plus grand nombre de Français comprennent que des médias leur font la guerre. Ils sont les véhicules de structures financières qui sont là pour s'en mettre plein les fouilles. C'est exactement ça. Peu ou importe que la France en crève, d'ailleurs. Nous avons affaire à des gens qui sont d'un cynisme extraordinaire et qui sont en train d'essayer encore une fois de manipuler l'élection présidentielle de 2022 en promouvant de façon délibérée quelques candidats dans l'objectif de faire réélire Macron. Voilà. En particulier, je sais que je vais peut-être choquer certains auditeurs de votre radio, mais c'est pas ce qui m'empêchera de le dire. En particulier, Madame Le Pen, vous avez vu que le dernier truc en date, c'est que maintenant, elle est pour Schengen. Donc Madame Le Pen, elle est pour l'Union européenne, elle est pour l'euro, elle est pour l'OTAN, elle est pour Schengen. Sur les questions sociétales, elle a tout laissé tomber. Et maintenant, elle demande même... J'ai vu l'armée européenne qui doit intervenir en Afrique. Enfin, moi, je ne sais plus ce qui sépare Madame Le Pen, honnêtement, de Xavier Bertrand ou même de M. Macron.
Voilà. François Asselineau, moi, j'ai toujours dit Marine Le Pen arrivera un jour au pouvoir le jour où son parti aura le programme du Parti socialiste. Et en effet, ça s'en rapproche. Ou en tout cas, des partis de gouvernement actuels. Olivier Soulier, et après, nous revenons à Charles-Maxence Laillet.
Oui, je pense que si on met un peu les pieds dans le plat, il faudrait vraiment considérer que le lobbyisme, c'est de la délinquance et pathologiser systématiquement les lobbyistes. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 personnes à Bruxelles qui sont à éliminer. C'est très clair. On sait très bien ce qui se passe. C'est vrai aussi que je me souviens de l'histoire de François Mitterrand, de Daniel Mitterrand, qui disait à François Mitterrand, mais pourquoi tu fais pas ce pourquoi tu as été élu? Et il lui répondait, mais tu sais, elle a dit ça dans ses mémoires, mais tu sais très bien que c'est plus moi qui commande. Donc là, on a vraiment une question fondamentale comme ça, où il faut qu'on se pose la question fondamentale de ce qu'il faut faire, quoi. Et vous me posiez la question là de vos auditeurs, qu'est-ce que je peux faire pour m'engager contre cette dictature?
Oui, alors ça, justement, parce qu'on a perdu du temps dans la première partie, et une invitée qui fait partie aussi de votre organisation Réinfo Covid devait intervenir sur la fin, sur les collectifs citoyens, si vous voulez bien nous en dire deux mots, et après Charles-Maxence Laillet, et on revient à François Asselineau.
Oui, bon, alors c'est simple, c'est pour ceux qui sont désespérés, qui s'imaginent qu'il n'y a rien à faire, je dis clairement il y a des choses à faire, je dis clairement il faut réinvestir la politique, c'est quelque chose d'important, mais la chose publique de base, c'est sa capacité qu'ont les citoyens de se réunir, et il y a un certain nombre de collectifs qui sont mis en place et qui sont très importants. D'ailleurs, je voudrais dire qu'aujourd'hui, les gens que l'on appelle aujourd'hui complotistes, on les qualifiera comme ce qu'on a qualifié les justes de la Seconde Guerre mondiale. C'est clair. Ça se passera comme ça. Et donc, il y a un certain nombre de collectifs qui se sont mis en place. Il y a Réinfo Covid, il y a Laissons les médecins prescrire, il y a La Quatrième Voie, il y a Réaction 19.
Alors, au sein de Réinfo Covid, je crois, parce qu'il y a des médecins, mais vous avez aussi des collectifs locaux de personnes qui ne sont pas des médecins.
Oui, alors il y a effectivement Réinfo Covid et le collectif qui est peut-être le plus récent, mais qui avance le plus vite en taille. Et c'est extrêmement positif de voir ce mouvement très puissant, et c'est très rassurant de voir la conscience des citoyens qui se disent « je peux reprendre ma vie en main ». Et il y a effectivement des collectifs locaux de citoyens qui organisent à Lille, par exemple, il y a demain une manifestation avec de la musique créative, etc., pour être dans une notion de dire « regardez, on manifeste, mais c'est pas du tout dans la violence, on va faire de la musique dans les rues, on va jouer de la musique, on va faire des spectacles ». Refaire. Donc il y a toute une série de collectifs qui existent et c'est tout. Il suffit d'adhérer, il suffit de... Etc. Ce sont des collectifs qui ne manipulent aucun argent, qui ne fonctionnent qu'avec des centaines de bénévoles et qui aujourd'hui sont des mouvements extraordinairement qui évoluent très vite et qui portent simplement des paroles de vérité. Il n'y a rien d'autre.
Merci Olivier Soulier. Pour la première partie, alors il y a énormément de questions, j'en suis désolé pour les auditeurs, je n'ai pas le temps de les poser. J'essaie déjà de poser quelques questions sur le standard, je répondrai hein, sur beaucoup de questions qui ont été envoyées par courriel. J'ai vos courriels, je vous répondrai ou nos invités vous répondront. Une félicitation pour la première partie de l'émission, les invités, surtout pour le docteur Fouché, très vivant et très cultivé. On est tous d'accord là-dessus. Vous êtes toujours parmi nous d'ailleurs, docteur Fouché ?
Toujours là, j'aimerais bien rebondir sur cette idée du politique et du réinvestissement politique.
Alors, voilà, mais par contre, il faut avancer. Donc oui, vous avez 5 minutes, parce qu'après, j'aimerais qu'on passe sur le passeport vaccinal. Docteur Fouché. 2 minutes
simplement, mais je crois qu'il y a un vrai enjeu autour du monde médiatique et du monde juridique. Dans un moment de déferlement totalitaire, tenir l'état de droit est quelque chose de fondamental. Je crois qu'utiliser nos droits tels qu'ils existent, sans vouloir en chercher de nouveaux, est extrêmement important. Aujourd'hui, les tribunaux sont très peu sollicités par les citoyens. Or, vous pouvez solliciter de manière pénale, administrative, civile. Il y a de très nombreuses requêtes à faire de tous les côtés. Donc là, il y a des collectifs d'avocats qui sont autour de Réinfocovid et qu'on essaie de coordonner autour d'une table, que ce soit Réaction 19 de Carlo Bruzac, que vous aviez déjà invité, ou bien Click and Requête de David Guyon, ou bien encore d'autres. Mais je crois qu'il faut utiliser vos droits, ne pas hésiter à utiliser le droit pénal pour obstacle et obstruction à la liberté d'expression. Et je crois que les avocats n'attendent que ça, de faire tomber le pouvoir médiatique. Car aujourd'hui, François Asselineau l'a dit, les élections sont un théâtre d'ombre où sont finalement les médias qui font élire la marionnette sortie du chapeau de Attali. Voilà, il est temps de reprendre une capacité de publication et de diffusion, ce que je disais au départ, et je crois qu'un des gros enjeux de cette résistance, c'est ça. Et donc nous avons besoin de hackers, nous avons besoin de programmeurs, nous avons besoin de plateformes internet alternatives, nous avons besoin de rentrer de manière interstitielle dans le net et dans les grandes majors de la publication sur le net, que sont les GAFAM, et de maintenir ça. C'est pour ça qu'on met autour de la table des journalistes qui sont en train de s'extraire de ce système en déliquescence, comme l'a très bien expliqué avec le recul historique François Asselineau sur la construction du socialisme. Vraiment, je trouve ça magistral, en fait, cette démonstration. Et puis elle permet en plus de le voir avec humour et avec sérénité. Vous avez des systèmes qui s'effondrent et les grains qui en sortent sont des gens fondamentalement honnêtes et qui cherchent le bien commun pour l'immense majorité d'entre eux. Et aujourd'hui, vous avez des journalistes qui cherchent à faire autrement et à recréer des médias indépendants et qui soient utiles aux citoyens à se faire une idée. Vous avez des avocats qui de même sortent du système juridique frelaté avec certains juges qui sont complètement partiaux et qui veulent prendre leur revanche sur les médias puisque jusqu'ici, les médias jugent en premier et en dernier ressort avant même le système juridique. Le judiciaire. Et voilà.
Très bien. Merci pour cette intervention. Charles-Maxence Layet, il nous faut avancer. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, toujours vu de l'Europe, ou pas d'ailleurs, en tant que Français, de ce que vous craignez voir apparaître de plus en plus, c'est la dictature numérique avec les... Attendez, laissez-moi quand même vous poser la question, et après peut-être que vous voudrez... Et donc voilà, j'aimerais... Oui, mais ça vous le savez, mais pas les auditeurs. Donc, dictature numérique, passeport vaccinal, ça sera ma seconde question, sachant que quoi qu'il arrive, je vous préviens, je dois rendre l'antenne, et il y a encore une chronique. Donc j'aimerais qu'on avance. Je vous écoute, Charles-Maxence.
Oui, alors juste, je voudrais préciser par rapport à ce qui a pu être dit précédemment, tout n'est pas que de la faute de Bruxelles, parce que moi, pour le vivre de l'intérieur, aucune décision à Bruxelles n'a lieu sans qu'elle soit entérinée par les États membres. Aucune décision. Okay. On a le Parlement qui n'a pas le pouvoir qu'il devrait avoir, mais il a toutefois un pouvoir symbolique qui est celui d'avoir été élu par les populations au suffrage universel. On a la Commission qui est effectivement une technostructure qu'on peut qualifier de bureaucratique, qu'on peut qualifier de gouvernement, qu'on peut qualifier de enfin en tout cas de fonctionnaire anonyme, d'armée de fonctionnaires anonymes. Et puis on a les États membres. Et sans les États membres, il n'y a aucune décision qui est possible et qui est valide. Par exemple, l'autorisation du glyphosate qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années, elle n'a été possible que parce qu'il y a eu un comité spécialisé, parce qu'il y a, il y a des comités surtout à Bruxelles, et donc et à chaque fois c'est des comités avec 27 ou 28 représentants, ça dépend combien on a d'États membres au sein de l'Union européenne, et qui ont voté à la majorité en faveur de le renouvellement du glyphosate. Et en l'occurrence, comme pouvait le rappeler M. Asselineau, c'est effectivement l'Allemagne qui a fait basculer le vote pour une réautorisation du glyphosate. Okay. Donc il faut bien avoir conscience, et ça marche pareil pour les autorisations de vaccins, ça marche pareil pour n'importe quel dossier, on est toujours avec des comités techniques où on est un rassemblement d'individus nommés par les États membres qui décident des choses. Donc attention à taper sur Bruxelles, alors qu'il faut mettre la pression sur les États membres pour que ça change aussi là-haut. Voilà. Et donc, et par rapport au fait de réinvestir la chose publique, comme ça a été dit, oui, effectivement, c'est une évidence que ça doit être fait, parce que si c'est pas le cas, on va se faire manger par des intérêts plus grands que nous, qui ne songent qu'à leur poche et aux pognons de dingue qu'ils ont, qu'ils veulent récupérer en faisant du détournement de l'argent public. N'ayons pas peur des termes. Mais pour autant, on a les élus que l'on mérite. Si on ne s'implique pas effectivement dans la sphère publique et dans le pouvoir politique, eh bien malheureusement, c'est d'autres intérêts que l'intérêt des citoyens et de la démocratie qui seront servis par les élus en place.
Réponse, Charles-Maxence Layet, réponse de François Asselineau, et après, je veux que vous nous parliez du passeport vaccinal, mais il faudra aller vite, sinon je n'hésiterai pas à couper. François Asselineau.
Oui, ce que vient de dire Monsieur Layet est exact. C'est vrai que les grandes décisions sont prises par les États. Mais il y a, ça doit être, cette affirmation qui est exacte doit être très fortement nuancée par la pratique. La pratique, ça a été parfaitement d'ailleurs établi, réfléchi, déterminé de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle la pression des pairs, pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire des semblables. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu de mes yeux vus quand j'étais en cabinet ministériel. D'ailleurs, je repense à cette réunion dont je parlais tout à l'heure à l'Élysée. Lorsqu'il y a un sommet des chefs d'État et de gouvernement, il va y avoir 35-40 dossiers. Bon, ils ont plusieurs heures. Ils sont 20, enfin, ils étaient 28. Enfin, non, à l'époque, d'ailleurs, en 95, ils étaient 15. Maintenant, ils étaient 28. Ils sont 27 maintenant. Et vous ne pouvez pas, quand vous êtes chef d'État et de gouvernement, dire non à tous les dossiers. C'est impossible. Sinon c'est le blocage. Il y a quand même une idéologie qui est derrière. Et puis par ailleurs, ils arrivent au dernier moment. C'est-à-dire que toutes les administrations nationales ont déjà participé à l'élaboration de tout un truc. Et après ça, ça a été toutes les administrations bruxelloises. Et il est de fait, il est bien connu que les Français ne savent pas faire de lobbying, que nous avons, nous, hein, les Français, leur genre de beauté, parce que nous sommes empreints d'un État de Louis XIV, centralisé, il faut être à la tête, mais on n'a pas la vision que peuvent avoir les anglo-saxons, qu'il faut en fait infiltrer tous les niveaux dans l'élaboration d'un processus de décision. Et donc, nous, on se gargarise parce qu'on va avoir Madame Lagarde à la tête de la BCE, Monsieur Barnier, mais en réalité, les décisions, elles se prennent tout au long d'une alchimie administrative où les Français sont en général très minorisés, et quand en plus de ça, ils sont à la tête d'une direction, eh bien ils sont idéologues et ils sont souvent en faveur de l'idée européenne au détriment des intérêts nationaux. Vous savez, je cite quelquefois ce mot extraordinaire de Sir Christopher Soames, qui était le gendre de Churchill et qui était ambassadeur du Royaume-Uni en France en 1963-64 sous De Gaulle. Donc c'était, enfin, on pouvait pas avoir un ambassadeur plus extraordinaire. Il était très drôle, et comme tous les nobles britanniques, il parlait très bien français. Il avait dit un jour: il faut toujours mettre un Français à la tête d'une organisation internationale parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. Eh bien, on en est là. Alors, effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Layet. Il faudrait que... Mais il n'en demeure pas moins que quand vous avez 27 pays, il faut faire des compromissions. Et donc, je me rappelle la réunion que j'avais à l'Élysée, en 95, encore une fois. Eh bien, maintenant, si vous voulez, s'il y a des réunions de préparation d'un sommet européen, il faut voir comment ça va se passer. Et il y aura peut-être un dossier sur lequel Macron pourra éventuellement s'opposer. Mais il ne peut pas s'opposer à tout, sinon c'est le blocage général. Et puis il y a eu... Vous savez, si je te passe la moutarde, tu me passes les aînés, etc. Par exemple, Macron s'est battu comme un beau diable au début de son quinquennat sur l'affaire des travailleurs détachés. On allait voir ce qu'on allait voir. Et on allait taper du poing sur la table. On a vu. En fait, il y a eu une réformette. Mais ça n'a rien changé de fond. C'est ça qu'il y a une... La construction européenne, la pression des pairs a sa propre dynamique qui est en train d'écraser les États, et seuls les États dirigé par une main, par des gens absolument déterminés à faire prévaloir leur intérêt national sur tel ou tel sujet. C'est le cas, par exemple, de la Pologne ou de la Hongrie ou de l'Allemagne, hein, qui est très 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 bonne pour défendre ses propres intérêts. Ça n'est pas le cas de la France, ça n'est pas le cas de l'Espagne, ça n'est pas le cas de l'Italie. Ben, nous, on se fait bouffer dans ce système. Et de toute façon, même si ce système marchait bien, eh bien on serait amené de toute façon à prendre des mesures qui ne correspondent pas à ce que veut la majorité du peuple français, qui n'est que 1/27 des peuples qu'il y a. Enfin, pas en démographie, mais en nombre de voix, c'est 1/27.
Merci François Asselineau. Charles-Maxence Laillé, c'est à vous.
Oui, merci. J'aurais également d'autres anecdotes à partager qui sont du même acabit que celles de M. Asselineau.
Donc, il faudra qu'on se rencontre.
Il faudra que vous rencontriez, mais hors micro, parce que... Non, mais Charles-Maxence, s'il vous plaît. Charles-Maxence, voilà. Si vous voulez qu'on en parle, c'est maintenant.
Avec M. Asselineau, c'était juste revenir pour l'histoire des vaccins. Alors, sur le vaccin AstraZeneca, on a eu un tel déluge d'informations depuis plusieurs mois sur les vaccins en général, sur le Pfizer, sur le Moderna, sur les variants, sur les est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'on en a, est-ce qu'on en aura pas, est-ce que ça va être obligatoire ou pas obligatoire, qu'on a oublié beaucoup de choses en cours de route. Juste pour le vaccin AstraZeneca, qui aujourd'hui en tout cas bénéficie d'une vision médiatique, d'un intérêt médiatique très très fort lié au vaudeville institutionnel européen que je vous évoquais tout à l'heure, que je vous ai résumé tout à l'heure. Donc ce qu'il faut, il y a 5-6 idées clés à avoir en tête sur ce vaccin et qui ça fait la passerelle avec le passeport vaccinal. La première idée, c'est que c'est un vaccin, il faut bien l'avoir en tête, c'est pareil que le vaccin Pfizer-BioNTech. Ce vaccin d'AstraZeneca, il a été développé par une start-up, une jeune pousse qui était dérivée de l'université d'Oxford et qui s'appelle Vaccitech. Ce vaccin est un vaccin OGM, qui est basé sur une technologie à vecteur viral et à partir de fragments génétiques de virus de chimpanzé, hein, on appelle ça un adénovirus, un virus de rhume, mais c'est un vaccin OGM au même titre que les vaccins ARN messagers.
C'est important
qui sont
de le dire.
Par
oui.
Pfizer et Moderna, il y a des différences d'appréciation pour dire ou pas si c'est des vaccins OGM. Du point de vue de l'Union européenne ou de l'Agence des médicaments, ça n'est pas un vaccin OGM. Du point de vue d'une association comme le CRIGEN qui fait office de lanceur d'alerte sur les questions des manipulations génétiques, c'est un vaccin OGM. Et sans doute, du point de vue de la Cour de justice européenne, les vaccins ARN messagers qui sont de l'ordre de la biologie synthétique et donc d'une construction en laboratoire d'un vaccin de synthèse, d'une séquence génétique artificielle, serait sans doute un vaccin OGM. En ce qui concerne le vaccin d'AstraZeneca, c'est un vaccin OGM de façon indiscutable, assumé et reconnu en tant que tel. Il n'y a pas d'ambiguïté. Pourquoi ? Puisqu'il mélange deux types d'ADN, il mélange deux types de séquences génétiques, il mélange du matériel génétique qui vient de l'adénovirus du chimpanzé et du matériel génétique qui vient du coronavirus, du SARS-CoV-2. Okay, c'est un mélange des deux, c'est un vaccin hybride, on appelle ça un vaccin mosaïque. En tout cas, c'est une séquence génétique mosaïque. Et donc, cette séquence génétique mosaïque, parce que c'est un vaccin OGM, ça a une certaine instabilité génétique. Hein, ça, c'est faut l'avoir en tête. Et c'est ça qui fabrique, qui s'insère, d'où le fait qu'on a un discours du côté des vaccins critiques, on pourrait dire, qui est attention à ces technologies sur lesquelles on n'a aucun recul. Il n'y a jamais eu de vaccin comme ça autorisé chez l'être humain aujourd'hui. En fait, ce sont des vaccins qui dérivent de thérapies géniques. Donc, en fait, on est cobaye par rapport, la population est cobaye par rapport à des injections, à des traitements qui arrivent sous cet angle du vaccin magique, alors qu'on n'a aucun recul et on ne sait pas ce que ça peut provoquer comme effet à long terme, on en a parlé tout à l'heure. Autre donnée aussi, c'est que ce vaccin d'AstraZeneca, et ça explique aussi des éléments de la guerre commerciale.
Donc on n'a toujours pas parlé de passeport vaccinal, hein, Charles-Maxence. Hein.
Ça y vient. Ce vaccin d'AstraZeneca, il a été mis en avant, c'est un des arguments commerciaux qui était poussé par AstraZeneca, notamment durant l'été 2020, comme étant commercialisé à but non lucratif. Et cet argument du but non lucratif a été non seulement il a été mis en avant pour pouvoir faire partie des vaccins considérés comme comme méritant d'être commandé et d'être gardé en priorité. Et c'était aussi une stratégie pour pouvoir rentrer dans les pays, on parlait de l'Inde, dans les pays d'Afrique, dans des pays, là aujourd'hui, il a été autorisé, enfin aujourd'hui, actuellement, il est autorisé au Maroc, il est autorisé au Vietnam. En tout, le vaccin d'AstraZeneca est autorisé dans une vingtaine de pays à travers le monde, et pour les trois quarts d'entre eux, dans des pays du Sud. D'accord ? Et ça se passe à travers une boîte indienne,
de
qui
minutes.
S'appelle le Serum Institute of India, qui fabrique sous licence le vaccin d'AstraZeneca. Donc on a des entreprises en Europe qui fabriquent le vaccin, pour l'Europe ou pour la Grande-Bretagne, et c'est là-dessus qu'il y a une guéguerre actuellement. Et on a aussi ce vaccin qui est d'ores et déjà commercialisé ou autorisé via une entreprise indienne qui fabrique pour d'autres pays qu'on va qualifier de pays à faible revenu. Ça, c'est vraiment pour le contexte technico-commercial autour de ce vaccin d'AstraZeneca. Et ce qu'il faut, et aujourd'hui on est sur une situation où il y a des urgences, en tout cas on nous parle des variants. Et en fait ce qui est assez surprenant, en tout cas il y a une coïncidence assez étrange, c'est que les fameux variants britanniques d'Afrique du Sud et du Brésil, bizarrement ils sont apparus dans des pays où ont eu lieu les essais cliniques d'AstraZeneca. C'est-à-dire que les essais cliniques d'AstraZeneca ont eu lieu en avril, ça a commencé en Grande-Bretagne, en juin, ça a commencé en Afrique du Sud ou au Brésil, et on se retrouve avec les mois de septembre, avec l'apparition d'un variant en Grande-Bretagne, et dans les mois qui suivent, on détecte un variant d'Afrique du Sud, on détecte un variant du Brésil. Et c'est vraiment, et c'est assez étonnant comme coïncidence, on a une coïncidence géographique. Et quand on creuse un petit peu, ce vaccin d'AstraZeneca qui est génétiquement modifié, il traite de la protéine S, la fameuse spicule. Et quand on regarde les variants en termes de mutations génétiques et ce qui les caractérise, ces fameux variants qui créent l'affolement un peu général actuellement, c'est sur la protéine S qu'il y a notamment une concentration des mutations génétiques qui ont été identifiées. Donc non seulement il y a une coïncidence géographique, on a aussi une coïncidence chronologique et en plus on a une coïncidence génétique. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où en tout cas on ne peut pas écarter l'hypothèse que les variants britanniques ou sud-africains qui créent beaucoup d'émoi à travers le monde d'un point de vue santé publique, qui questionneraient même peut-être l'efficacité des vaccins, est en fait une conséquence, un effet indirect des essais cliniques d'AstraZeneca liés à ce vaccin qui ont eu lieu dans ces trois pays, tout d'abord, avant que les campagnes de vaccination commencent.
Merci Charles-Maxence Layet, merci beaucoup. On reviendra sur le passeport vaccinal la prochaine fois. Merci. Olivier Soulier, vous avez quelques deux minutes à peine pour dire encore quelques mots et j'aimerais la conclusion de François Asselineau.
Oui, je pense que ce que dit Charles-Maxence est malheureusement hautement probable. C'est très préoccupant et si on n'a pas de connaissances, de certitudes scientifiques, je pense qu'on ne s'amuse pas à prendre ce genre de risque. On peut s'amuser, on peut le faire dans le cadre d'une expérimentation à petite échelle sur quelques centaines de milliers de personnes. On ne fait pas ça sur 3 ou 4 milliards d'habitants, c'est joué. Imaginons un instant qu'on ait réellement un problème. Et c'est tout à fait possible, comme le dit Christian Vélo, le patron du CRIGEN, dans son excellente vidéo. Imaginons qu'on a un problème, on a une telle quantité de gens que ça va arriver. Et là, on va se retrouver avec un problème mondial, une crise sanitaire d'une dimension qu'on n'a jamais vue, avec peut-être des milliers ou des millions de morts. Et ça va être un truc, on ne peut pas s'amuser à prendre ce risque-là. Ça, c'est... Maintenant, ce que je voudrais dire comme conclusion, c'est... Bon, on parle ici, on explique les choses, on est tous là pour essayer de parler de ça. Moi, j'ai envie de dire aux gens, mais reprenez votre vie en main. Ne vous laissez pas impressionner, essayez de comprendre au fond de vous, vous n'êtes pas des esclaves, vous avez cette capacité de discernement, il y a aujourd'hui différentes manières de manifester votre volonté, ne vous laissez pas abattre, on est là pour vous le dire, il y a tous les collectifs où vous pouvez intervenir, reprenez votre vie en main, et surtout ayez confiance aussi que votre corps est capable, parce qu'on vous met dans une narration où on vous dit que votre corps n'est même plus capable de se défendre seul. Ce n'est pas vrai, vous êtes des gens extraordinaires, ayez-en conscience, reprenez votre pouvoir. C'est ça ma conclusion.
Merci Olivier Soulier. Un auditeur, il y a eu énormément de questions, j'ai pas pu répondre. Bonsoir, émission très riche, mais pourrait-on laisser parler un peu monsieur François Asselineau, que l'on n'entend pas souvent dans les médias, émission formidable. Alors, on vous écoute François Asselineau, mais malheureusement, vous n'avez plus que 3 minutes.
Alors d'abord, merci à cet auditeur.
Et on vous réinvitera.
Voilà, réinvitez-moi, effectivement. Ben, d'ailleurs, j'ai, au passage, je signale à tous les auditeurs qui voudraient m'écouter, ils n'ont aussi qu'à écrire aux grandes télévisions, aux grandes radios et au CSA. Il faut dire, ça n'est pas normal. Quand je vois que des personnes qui ne font même pas de politique, par exemple, je pense à M. Montebourg, qui avait dit qu'il abandonnait la politique, et puis qu'il devenait producteur de miel, et puis il suffit qu'il dise, tiens, je vais me présenter à la présidentielle, pour que d'un seul coup, toutes les radios, toutes les télés l'invitent, etc. Mais pourquoi ? Parce que M. Montebourg, il dit qu'il va réindustrialiser la France, qu'il veut se battre pour le « Made in France », et c'est ça, ce qui plaît à beaucoup de Français. Mais surtout, M. Montebourg a dit « Mais je ne ferai pas le Frexit ». Il est là, le truc. C'est-à-dire qu'en fait, il enfume comme tous les autres. Alors moi, ce que je voudrais dire, je voudrais porter ici un message de positif, c'est que les choses, elles bougent quand même. Les choses, elles bougent parce qu'on parle de désobéissance civile et si et ça. Personnellement, j'ai toujours un petit peu de prudence sur le sujet. Je ne veux pas inciter à faire des... Je pense que la situation peut évoluer de façon, pour l'instant encore, en restant dans la légalité. Je m'en voudrais de pousser des restaurateurs qui sont dans une situation épouvantable à leur donner des conseils de braver la loi avec un risque quand même majeur, parce que je pense que c'est ça qu'a prévu le gouvernement, c'est-à-dire de leur taper dessus, de leur filer un an ou six mois de fermeture administrative et des amendes monumentales. Et après, les gens se retourneraient vers moi et me diraient ben « Alors qu'est-ce que vous faites ?» Ben, je pourrais pas les aider. Non, moi, je pense qu'il y a des moyens. D'abord, la désobéissance civile, elle marche déjà. Si vous voulez, il y avait pour le premier confinement, il y avait une très, très, très grande majorité des Français qui étaient pour. Le deuxième confinement, c'était déjà beaucoup moins. Le couvre-feu, maintenant, il est quand même moins suivi, etc. Mmh. Deuxièmement, vous avez la possibilité d'aller voir votre député. Il est quand même là pour ça. Et puis vous allez voir votre député et vous lui dites « Monsieur le député » ou éventuellement « Monsieur le sénateur » ou « Madame hein, », vous lui dites « Un, si vous n'agissez pas comme le peuple français le souhaite, je ne voterai pas pour vous et j'appellerai à ne plus jamais voter pour En Marche, etc. » Deux, pourquoi vous ne lancez pas la procédure de destitution de M. Macron par l'article 68 ? Ça fait 2 ans que moi, j'ai mis en ligne un dossier que nous enrichissons d'ailleurs. M. Macron s'est rendu coupable de nombreuses violations, mais éhontées de la Constitution française. Eh bien vous savez, moi, ce que je vois, c'est que j'ai écrit d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, une lettre conjointement co-signée avec Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot. On a écrit une lettre conjointe à Olivier Véran. C'était le 2 janvier et j'en avais envoyé une copie à M. Macron. Eh bien j'ai reçu un courrier de M. Stroda, donc le directeur de cabinet de Macron, qui m'a dit ben, « on l'a bien reçu et on va demander, le président de la République va demander à Olivier Véran de s'occuper des traitements, puisque c'était l'objet de la lettre ». Eh bien j'ai vu qu'il y a eu une réunion sur les traitements. Maintenant, nous attendons la suite. Mais surtout, il ne faut jamais abandonner. Maintenant, nous allons tanner le cuir de M. Véran jusqu'à ce qu'il nous explique ce qu'il fait de l'ivermectine, etc. Il ne faut pas abandonner. Il faut maintenir la pression. D'ailleurs, ça a payé, puisque vous avez vu le discours de Castex. Il renonce au confinement quand même. Et il essaie de remettre le Parlement dans le jeu.
Merci François Asselineau. Merci Dr Fouché. C'est maintenant le moment de la chronique de Lara Stam.
Alors, le JDD du 24 janvier en était sûr. Macron va annoncer un reconfinement souple de 3 semaines. Après l'effet des fêtes des fins d'année et l'effet apéro, le gouvernement craint un effet galette des rois. Le même jour, Véran annonçait dans Le Parisien qu'il n'y a pas de plan caché de reconfinement. Confirmé, lui, par France Info. Le président n'a pas prévu de prendre la parole cette semaine. Et comment pourrait-on annoncer un reconfinement alors qu'il vient de renvoyer les étudiants à l'université un jour par semaine ? S'interrogent les Échos, qui refusent avec ironie de croire en pareille incohérence. Bref, on attend et le stress continue, Le Figaro. Plus on tarde, plus le reconfinement sera long. Les variants changent complètement la donne, c'est comme une deuxième pandémie, a déclaré le professeur Delfrécy, conseil scientifique. Traquer les mutants est une priorité pour ne pas se laisser déborder, écrit le Parisien. Mais la France n'en a pas les moyens, affirme le Figaro. On séquence 20 fois moins d'échantillons qu'en Grande-Bretagne, 30 fois moins qu'au Danemark. Alarmiste le week-end, prudent le lundi, le professeur Delfrécy est passé de Nous sommes dans une semaine critique sur BFM, le confinement, on n'est pas à une semaine près, Libération. Il recommande maintenant d'attendre les résultats du couvre-feu avant de durcir les restrictions. Le reconfinement, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Demande Libé. Tout cela doit être concerté. Ce ne sont pas 8 Illuminati à capuche qui tranchent dans leur coin, répond l'Élysée agacé. Et pourtant si, c'est même un seul Illuminatus qui tranche, Emmanuel Macron. Le président n'aime pas qu'on lui torde le bras, le poing. Il est agacé par les experts qui n'ont que le confinement à proposer. Dans son viseur, le professeur Delfrécy. Il préconise l'autoconfinement des personnes âgées, dans ce cas qu'il se l'applique à lui-même, l'OPS. Si le troisième confinement ne fonctionne pas, on est mort, confie un proche de Macron aux Échos. Le danger, c'est que les gens se rebiffent. Il faut faire gaffe, dit un autre Parisien. Si les coiffeurs décident de rester ouverts, on fait quoi? On envoie plein de petits Darmanins pour leur faire dire de fermer? L'élection présidentielle est pour demain et il ne faut pas s'aliéner des jeunes. Macron craint d'être, comme Trump, jugé sur son bilan de la pandémie. Je vous rappelle l'information essentielle de la semaine passée. Un reconfinement s'annonce plus probable qu'éventuel, mais la décision ne sera envisageable qu'en fonction des données indisponibles prévues pour bientôt et attendues impatiemment, qui exigent d'être actualisées par 8 Illuminati encapuchonnés, cherchant un dispositif différent des deux premiers confinements. Vous voulez prévoir votre vie? Impossible. Vous ne pouvez plus organiser ni votre vie familiale ni votre vie professionnelle. On prend un rythme de vie au jour le jour. Petit rappel, au début on nous a dit, les masques ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas malade, c'est même dangereux. Il faut savoir s'en servir, c'est pas très simple. Petit clin d'œil à Sibeth Ndiaye. Finalement si, mettez les masques, mettez-les partout. Dehors, dedans, au travail, chez soi. En tissu, industriel, artisanaux, chirurgicaux, FFP2. Pour le chantier, n'importe quel masque, fabriquez-les, achetez-les, c'est obligatoire. Mais pas pour les enfants. Puis, oh, si, mettez-les à partir de 11 ans. Puis, allez, à partir de 6 ans. Jetez-les au bout de 4 heures. Finalement, non, lavez-les. Lavez-les tous, ça marche. Puis non, ne les lavez pas, jetez-les. Ne portez plus les masques artisanaux en tissu, ils sont inefficaces. Ou bien, par-dessus un masque chirurgical. Si finalement les masques en tissu, c'est bon, ça marche. Mais ne parlez plus dans le métro. On ne se contamine pas dans les transports en commun, mais taisez-vous. On vous a bien interdit de danser, chanter, faire du sport, aller au théâtre, au musée, manger au resto, boire un café, fêter un nouvel an ou votre anniversaire, mais bon. Mais bon sang, arrêtez de parler maintenant. C'est pas fini, rassurez-vous. Des nouvelles de Chine? Si, jugé plus fiable et plus précis pour dépister la Covid-19, le test rectal se répand en Chine. Il est pratiqué aussi à destination de ceux qui arrivent de l'étranger et ceux qui sont sous quarantaine à l'hôtel. Mais ce test de dépistage rectal est jugé par beaucoup d'internautes comme embarrassant et humiliant. Un internaute témoigne. J'ai fait 2 dépistages anaux. Dans la foulée, on m'a aussi prélevé un échantillon dans la gorge. À chaque fois, j'avais peur que l'infirmière oublie de changer des couvillons entre deux. Sinon, il y a des crèmes glacées qui ont été testées positives au Covid-19, toujours en Chine. Plusieurs restaurants sont ouverts clandestinement à Paris. Les policiers sont au courant, mais ils ferment les yeux. D'ailleurs, ils y mangent, le Parisien. Nous avons pris 2,5 kg en moyenne au premier confinement, kilos perdus, puis repris. Les Français subissent l'effet yo-yo en fonction des confinements.
Ils sont beaux nos amateurs, hein. François Asselineau, il reste encore une minute finalement. Comment vous avez trouvé cette chronique?
La chronique, je la trouve d'abord extrêmement drôle et vraiment bravo pour votre talent. Là, j'avoue que notamment le récapitulatif de tout ce qu'on a pu dire aux Français sur le masque, il y a de quoi rendre les gens dingues. D'ailleurs, c'est ce que j'entends de plus en plus autour de moi. On est en train de rendre les gens dingues. Et il y a quand même quelque chose qui est très grave, c'est que c'est pas seulement une formule. Vous savez que les cas psychiatriques sont en forte augmentation et on n'a pas d'informations précises, mais il semble que les cas de suicide sont en très forte augmentation aussi. Parce que tout ça, les mesures de l'État doivent être prises de façon générale. Il n'y a pas que la Covid-19. Il y a toutes les maladies qui perdurent par ailleurs. Et on est en train d'entraîner une société dans une espèce de psychose générale. Ça n'est pas bon. Il y a quelque chose que je voudrais dire aussi. C'est de comparer avec les autres pays du monde et ceux qui ont des très faibles taux. Et ça, je trouve que le gouvernement devrait rendre compte devant l'Assemblée nationale régulièrement. Comment se fait-il que la France est le 20e plus mauvais pays du monde en nombre de morts par habitant de la Covid sur 201 territoires et pays différents.
Merci François Asselineau, merci Olivier Soulier, merci Louis Fouché, merci Oscar Ifreisinger, merci Charles-Maxence Layet, merci Lara Stam, chers auditeurs, à très bientôt sur Radio Courtoisie.
Merci Nicolas.
Vous venez d'entendre le libre journal de la plus grande France dirigé par Nicolas Stocker assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 30 janvier 2021 de 18h à 21h et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.